La chorale, merci pour ce chant merveilleux. Nous allons, sans plus tarder, nous préparer à recevoir sa parole. Nous prions. Après ce moment merveilleux de louange et d'adoration, après nous avoir, Seigneur, attirés en toi, et nous avoir donné, Seigneur, cette opportunité de nous incliner devant toi et de t'exprimer les sentiments de nos cœurs par des cantiques, Seigneur, par des chants. Oui, après ce moment extraordinaire, voilà, ô Dieu, que tu nous donnes l'occasion de nous asseoir à tes pieds afin de recevoir ta parole. Ce matin, nous voulons recevoir ce qui vient de toi. Ce matin, nous voulons que, Seigneur, notre foi soit nourrie par ta pensée, par ta parole, par le réma qui sort de ta bouche. Ce matin, nous voulons, ô Dieu, que tu puisses vraiment nous visiter puissamment au travers de ta parole. Bénis ton serviteur, Seigneur, chargé de proclamer cette parole à ton peuple. Ce n'est qu'un homme, Seigneur, un homme qui a besoin de ta grâce, qui a besoin de ton soutien, de l'assistance de ton Saint-Esprit. Oui, bénis ton peuple, bénis chacun de nous. Nous te le demandons, ô Père, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, alléluia, nous acclamons le nom du Seigneur. Bien, comme les Français disent, jamais 203, jamais 400, alors jamais 910, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, nous allons revenir une fois de plus à ce thème, à savoir la parole de Dieu, le Logos et le Réma, est terminé aujourd'hui, je l'espère en tout cas. C'est donc le 10e épisode, le 10e chapitre de cette longue, merveilleuse série de messages autour de la réalité de la parole de Dieu, réalité qui se présente à la fois en nous comme le Logos, mais aussi comme le Réma. Nous allons sans plus tarder lire dans Jean chapitre 5. Le dimanche dernier, nous étions dans Jean chapitre 4. Eh bien, aujourd'hui, nous allons au chapitre 5. Nous allons lire très rapidement les 15 premiers versets de Jean chapitre 5, l'évangile de Jean 5, 1 à 15. Nous lisons après cela, nous dit la parole, « Il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. » Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques était couchée une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que ait été sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit coucher et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. » Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme retrouva la santé. Il prit son lit et se mit à marcher. C'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a rendu la santé m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla, et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. Amen. Et gloire au Seigneur. Je voudrais revenir une fois de plus, mes amis, sur l'efficacité, sur la puissance des paroles qui sortent de la bouche du Seigneur. Revenir, mes amis, sur la puissance dont les paroles du Christ sont donc porteuses. Ce récit, comme tant d'autres que nous avons eu à examiner pendant ce long pèlerinage à travers le Nouveau Testament, oui, ce récit, comme tant d'autres, nous montre, mes amis, combien la parole du Christ est puissante, combien sa parole est porteuse d'espérance, porteuse de vie. Combien sa parole est porteuse de puissance, d'une puissance, Seigneur, mes amis, capable de réduire à néant la puissance, toute puissance de mort et toute puissance de maladie. Gloire à Dieu. Le dimanche dernier, il a été question de cet officier royal qui, un jour, ayant appris que le Seigneur était à Cana, alors que lui était à plus de 30 kilomètres à Capernaum, eh bien cet officier, qui avait entre-temps entendu beaucoup de choses sur le Seigneur, qui avait été informé par d'autres personnes, eh bien, de tout ce dont Jésus était capable, cet homme a pris la résolution de quitter son village, sa petite ville de Capernaum, pour aller à Cana à la rencontre du Seigneur. Et quand il arrive et qu'il présente son besoin au Seigneur, le Seigneur lui donne une parole. Le Seigneur lui donne le rhéma. Et le résultat, mes amis, eh bien cet homme va être témoin d'une démonstration de puissance, de la puissance illimitée de Jésus-Christ sur la maladie, et en l'occurrence sur la maladie de son fils. Car ce dernier était mourant. Chaque jour qui passait, comme nous l'avons vu la semaine dernière, l'approchait de la mort. Il n'y avait plus d'issue, mes amis. Cet homme a tout fait. Il a essayé de secouer n'importe quel cocotier dans le but qu'une guérison, un remède, un miracle puisse lui être octroyé. Il a tout fait, mais rien à faire. Jusqu'à ce qu'il entende que Jésus était à Cana. Alors là, à partir de ce qu'il avait entendu, à partir de ce qu'il avait appris sur Jésus, cet homme a pris la résolution de partir à plus de 30 kilomètres de là où était Jésus. Et quand il arrive, le Seigneur lui donne la parole, cet homme croit, il obéit, mes amis, il fait ce que le Seigneur lui demande, et le résultat, c'est que son fils, qui était à plus de 30 kilomètres, sans avoir eu un contact physique avec le Seigneur, va expérimenter la guérison, va être libéré de cette puissance de mort qui s'approchait de lui chaque jour et qui passait. Et gloire au Seigneur. Jésus lui avait dit, va, ton fils vit. Cet homme a saisi cette parole. Cet homme a cru et il a obéi. Il a tourné le dos au Seigneur. Et il s'est mis à partir, à repartir vers son village ou sa ville, conformément à la parole que le Christ lui avait donnée. Il se trouve que pendant qu'il descendait, ses serviteurs, eh bien, vont le rencontrer pour lui apporter une très bonne nouvelle, en lui disant que son fils était bien en vie. Alléluia. Cet homme a cherché à savoir à quel moment son enfant s'était bien porté. Ils lui ont dit à 13 heures. Donc, cette guérison miracle, ce sursaut de bonne santé a dû les interpeller au point où ils se sont souvenus de l'heure à laquelle le miracle était intervenu, à 13 heures. Et l'homme se souvint que c'était justement l'heure à laquelle où le Seigneur lui avait dit, va, ton fils vit. Amen. Gloire au Seigneur. Cet homme est allé chercher la réponse, et il a eu la réponse. Le Seigneur ne lui a pas proposé d'observer tel ou tel autre rite. Il ne lui a pas demandé de faire ceci ou de faire cela. Il lui a donné simplement sa parole. Et cet homme a reçu cette parole. Cette parole a suscité en lui. Il y avait déjà un brin de confiance en Christ. Il y avait déjà un brin de foi. Et cette parole qu'il a reçue en direct, cette parole sortie de la bouche du Christ, eh bien, va finir par susciter la foi, cette foi qui va permettre à son fils, qui était à plus de 30 kilomètres, d'expérimenter la guérison. Alléluia. L'enfant est guéri alors qu'il est dans une autre ville. Mes amis, nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu extraordinaire. Pour lui, il n'y a rien qui soit au-dessus de lui. Pour lui, le mot impossible n'existe pas. Pour lui, le mot pénurie n'existe pas. Mes amis, Christ est capable de tout. Pendant 10 semaines, 10 dimanches, nous avons essayé et nous essayons encore aujourd'hui, mes amis, de vous aider à vous tourner vers le Seigneur, quel que soit le besoin dans lequel vous vous trouvez, à faire confiance dans la personne du Christ, à vous reposer sur sa parole puissante, à vous laisser conduire par son Saint-Esprit. Alors, vous expérimenterez de choses extraordinaires. Et gloire à Dieu. Oui, cet homme, l'officier avait reçu, avait entendu pas mal de choses concernant la personne du Christ, concernant, eh bien, sa puissance, comment cette puissance se manifestait en détruisant tout pouvoir de maladie, toute puissance adverse. Et tout cela, tout ce qu'il avait entendu sur Jésus, tout ce qu'il avait entendu à propos concernant sa puissance, tout cela avait fini par susciter en lui la foi. Qu'en est-il de cet infirme de Bethesda dont nous venons de lire le récit? Eh bien, nous voyons que pour cet infirme, pour cet homme infirme, paralytique, eh bien, les choses se passent autrement. Pour cet homme, c'est un autre scénario. Autant l'officier royal du chapitre 4 avait entendu beaucoup, pas mal de choses agréables, de choses merveilleuses sur Jésus, choses qui avaient fini par générer en lui la foi, autant l'officier royal savait, mes amis, qui était Jésus, et c'est d'ailleurs parce qu'il savait qui il était, que lorsqu'il a appris que Jésus était à Cana, à plus de 30 kilomètres de chez lui, eh bien, il n'a pas hésité à se lever pour aller voir le Seigneur. Oui, lui, autant il connaissait pas mal de choses sur Jésus, autant l'infirme de Bethesda ne savait pas qui était Jésus. Oh, alléluia. Il ne savait pas, même si au verset 7, le malade répond à la question du Seigneur. Lorsque le Seigneur lui dit, « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. » Eh bien, le fait d'appeler Jésus Seigneur ne veut pas dire qu'il reconnaissait sa seigneurie. Nous l'avons lu. Il ne savait pas qui c'était. Car lorsque les Juifs lui ont demandé, « Qui lui avait dit cette parole ? Lève-toi et marche !» Eh bien, il ne savait pas que c'était Jésus. Mais cela n'a pas empêché, mes amis, empêché le Seigneur d'accorder à cet homme sa guérison, celle qu'il cherchait ou qu'il était allé chercher là à la piscine de Bethesda. Donc le mot Seigneur à l'époque de Jésus, c'est-à-dire à l'époque du Nouveau Testament et même dans l'Ancien Testament, eh bien, le titre Jésus était un vocatif qu'on utilisait lorsqu'on avait affaire à quelqu'un que l'on considérait, qu'on pensait qu'il devait jouir d'un certain respect. C'est là que vous devez faire attention quand vous méditez la parole. Ce n'est pas parce que la personne dit Seigneur qu'effectivement il démontre sa foi. La preuve. La preuve, c'est que dans Acte 16, verset 30, Paul et Silas sont en prison. Ils sont en train de louer le Seigneur. Et puis là, le ciel répond. Il y a un tremblement de terre. Les murs, les chaînes des prisonniers sont brisées. Les prisonniers profitent de l'occasion pour s'évader. Mais Paul et Silas, eux, restent. Le geôlier, celui qui était chargé de surveiller cette prison, de surveiller les prisonniers, quand il voit ça, eh bien, il s'est dit, c'est fini. Quand mes supérieurs l'apprendront, ça sera ma mort. alors autant me suicider. Paul crie à lui, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et au verset 30 de Actes 16, eh bien, écoutez comment le geôlier s'adresse à Paul. Il appelle comment? Il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est simplement un vocatif, il réalise que ces gens sont spéciaux. Et il appelle Paul, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ça, c'est un exemple. Et puis, il y a Actes 10, verset 4, Corneille, qui était en prière, et puis un ange lui apparaît, et l'ange lui apporte la bonne nouvelle en disant, Corneille, tes prières ont été entendues par le Seigneur. Maintenant, envoie les gens Joppé, tout ça. Il est donc troublé par cette vision, et il dit à l'ange, au verset 4, qu'y a-t-il, Seigneur? Est-ce qu'en disant ça, Corneille reconnaissait que l'ange était le Seigneur? Non, c'est simplement un vocatif. Voyez-vous, qu'on utilisait par respect, on le trouve dans nos langues, en swahili ou en autre, bwana. Donc, bwana, c'est le Seigneur, grand S. Bwana, c'est aussi le mari. Bwana, c'est aussi le maître. Bwana, c'est aussi le monsieur, oui ou non? Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, il ignorait qui était cette personne qui lui a donné la parole et qui, sur le champ, cette parole, eh bien, a changé sa situation. Il a expérimenté la délivrance. Et gloire à Dieu. Cet homme se met debout. Aussitôt, nous voyons une démonstration de puissance. Face à la maladie, eh bien, Jésus n'a pas besoin de tourner en rond, n'a pas besoin de recourir à tel ou tel autre rite. Il ordonne et la maladie obéit. Et la maladie part. Les paroles qui sortent de la bouche du Christ sont puissantes. Voilà pourquoi je vous appelle, mes amis, à rechercher cette communion avec lui. Voilà pourquoi je demande à chacun de nous de tout faire pour grandir dans cette relation, afin de développer une certaine sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Car c'est lorsque nous discernons que cette parole ne vient du Christ, que nous recevons cette parole, qu'alors cette parole finit par faire ses preuves en nous, qu'elle manifeste le règne de Dieu. Amen. Il est guéri, aussitôt cet homme retrouva la santé. Comme le Seigneur le lui a dit, il prend son lit, il se lève, il prend son lit et se met à marcher, alléluia. C'était le sabbat, c'était un samedi, voyez-vous. Et les juifs étaient très très scrupuleux, très attaché à l'observation de la loi. Voyez-vous? Mais là, laissez-moi vous dire une chose, la manière dont ce juif réagisse, ils lui disent, mais oui, mais c'est sabbat. Il n'était pas permis de prendre ton lit et de marcher. Vous vous rendez compte? Voyez le légalisme. Vous voyez, mes amis, nous avons là, nous avons en face de nous une observation légaliste, fanatique, intégriste, obscurantiste de la religion. Pour eux, il faut observer le sabbat. Donc la santé de cet homme importait peu. Quel aveuglement, quelle cécité spirituelle. Mais heureusement, cet homme était déterminé. Qu'est-ce qu'il leur répond? Celui qui m'a rendu la santé m'a dit ceci, prends ton lit et marche. Et je marche, gloire à Dieu. Alors les juifs lui demandent, mais qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Voyez-vous, il ne savait pas, car Jésus entre-temps avait disparu dans la foule qui était dans cet endroit. Ce n'est que plus tard, nous l'avons lu plus tard, que le Seigneur va trouver cet homme dans le temple et va lui dire, voici, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla, alors il s'est mis à dire aux Juifs que c'était Jésus. Oh, alléluia. Il a reconnu après, il a su, Jésus s'est présenté à lui, et là, il a vu. Peut-être qu'il avait peut-être entendu parler d'un homme de Galilée qui opérait des miracles, peu importe. Mais c'est à partir de ce moment-là que cet homme va savoir qui était celui qui lui avait fait beaucoup, beaucoup de bien. Jésus est passé par là. Jésus s'est approché de ce malade. 38 ans de souffrance. 38 ans de paralysie, d'infirmité. 38 ans où cet homme était couché sur son grabat, sur son lit. Et ce jour-là, quelque chose va se passer. Comme pour tant d'autres, pour Bartimée, pour les 10 aveugles, pour l'officier royal, pour cette femme qui avait été délivrée d'une perte de sang, quelque chose va se passer. Jésus va passer par là. Oh, alléluia. Et en passant par là, l'homme va assister à une démonstration de puissance. Son infirmité va disparaître. Sa maladie va le quitter et l'homme va retrouver la santé. Jésus lui ordonne, l'homme est couché sous ce portique-là, près de la porte des brebis, à côté de la piscine de Bethesda, l'homme est couché sur son lit, sur son grabat. Et là, le Seigneur le regarde, lui pose la question, « Veux-tu retrouver la santé ?» Comme nous l'avons vu pour Bartimée, eh bien, quelquefois le Seigneur avait sa façon de réagir. Comment on peut poser la question à quelqu'un qu'on trouve dans un cabinet médical s'il a besoin de retrouver la santé? Comment peut-on demander à quelqu'un qui était là sous le portique, qui était un lieu qui accueillait la multitude d'hommes et de femmes qui souffraient de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'infirmités, demander, poser la question, veux-tu retrouver la santé? Et ensuite, le Seigneur lui ordonne de se lever, de prendre son lit et de marcher. Alléluia. Aussitôt, cet homme retrouva la santé. Aussitôt, cet homme prit son lit et se mit à marcher. Revenons un tout petit peu au contexte pour mieux comprendre toutes ces vérités dont nous avons besoin. Car beaucoup peuvent se retrouver dans la situation de ce paralytique. La Bible nous dit qu'il y avait une fête à Jérusalem. Et à cette occasion, Jésus y monta. Jésus arrive à Jérusalem et nous pouvons, mes amis, nous imaginer ou l'imaginer marcher dans cette ville, se déplaçant d'une rue à l'autre, non pas pour passer son temps, non pas en vadrouille, non pas du tout, mais plutôt à la recherche des hommes et des femmes qui était dans un besoin quelconque, besoin de guérison physique, besoin de délivrance par rapport à l'emprise démoniaque, par rapport aux démons, aux esprits impurs, besoin de salut, besoin de pardon, besoin de restauration. Oui, il ne se déplaçait pas parce qu'il n'avait rien à faire. Il était conduit par le Saint-Esprit, alléluia. Il était pleinement dans la volonté du Père. Il n'a rien fait au hasard. Toute sa vie, mes amis, a été conduite par l'Esprit de Dieu, par son Esprit. Et c'est là qu'il va passer par cette piscine de Bethesda, à la recherche de gens qui étaient dans le besoin. Car n'est-il pas venu chercher et sauver ce qui était perdu? Luc 19 dit, c'est lui-même qui l'a dit. Lorsqu'il interpelle Zachée, il termine cet échange avec Zachée, Luc 19, verset 10, en disant, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alléluia. C'est ainsi donc que Jésus est venu à cette piscine, à la piscine de Bethesda. Cette piscine avait 5 portiques, qui étaient des galeries à colonnes. Et sous ces portiques étaient couchés, comme nous l'avons lu, une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques, d'estropiés, de perclus. Voyez-vous, tous avaient entendu que quelque chose se passait à la piscine de Bethesda. En effet, il arrivait périodiquement que l'eau se met tout d'un coup à bouger. à être agité. Et cela, comme nous l'avons lu, était donc provoqué par la descente d'un ange. Et dès que l'eau commençait à bouger, tout le monde savait, eh bien, que l'ange était descendu pour que les gens puissent expérimenter la guérison. Voyez-vous? Tous étaient là. Ils sont partis de leur village de Jérusalem à la recherche de cette guérison, de cette restauration. C'était tout cela, malades, des gens perclus, des estropiés, des aveugles, des malades, mes amis, des gens qui souffraient. Quel spectacle triste, désolant, mes amis, quel spectacle terrible, émouvant, que celui que nous offre ou offrait tous ces gens, cette multitude. Tous étaient venus chercher une solution à leurs problèmes, à leurs préoccupations. Les malades étaient venus chercher la guérison, les paralytiques, les estropiés, les infirmes également. Les aveugles étaient venus rechercher le recouvrement de la vue. Bref, eux tous avaient fait ce voyage, étaient là au bord de la piscine à la recherche d'un miracle. Et gloire à Dieu, un miracle, une intervention divine en faveur, en leur faveur. Tous étaient là à Bethesda pour chercher quelque chose de la part du Seigneur. Des miracles se produisaient. Tous ceux qui venaient expérimentaient ce miracle. Et Dieu, dans sa grâce, envoyait un ange. Et cet ange descendait, non pas de manière régulière, mais descendait de manière périodique. Il agitait l'eau. On savait que l'ange est descendu par le mouvement de l'eau. Et quand l'eau se mettait tout d'un coup à bouger, quand on voyait que l'eau était agitée, eh bien tout le monde savait que l'ange venait de descendre et que c'était le moment d'aller chercher la guérison dans cette piscine. Voyez? Alors considérons un tout petit peu cette scène autour de la piscine. Vous avez là des malades, vous avez là des boiteux, des perclus, des estropiés, vous avez là des aveugles. Tous attendaient cet ange, que cet ange descende. Quand nous lisons le Nouveau Testament et en particulier les Évangiles, eh bien nous nous rendons tout de suite compte de l'activité angélique à cette époque-là. Rappelez-vous, quand le moment est venu de rassurer Zacharie et Élisabeth qu'ils allaient avoir un enfant, le Seigneur a envoyé l'ange Gabriel, n'est-ce pas? L'ange Gabriel est allé apporter cette bonne nouvelle à Zacharie en lui disant que Dieu venait d'entendre sa prière et de l'exaucer, qu'il allait avoir un fils, etc. Et ensuite, le même ange ira plus tard, eh bien, apporter la bonne nouvelle à Marie, lui disant qu'elle allait devenir enceinte, qu'il allait concevoir un enfant par la vertu du Saint-Esprit. Et puis après la naissance du Seigneur, rappelez-vous, un ange était apparu au berger qui passait dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Un ange leur était apparu. Et puis enfin, dans le livre des Actes, Paul, là en prison, mis en prison par Hérode, va être délivré par un ange, n'est-ce pas? Eh bien, ici aussi, nous voyons que Dieu envoyait un ange pour agiter l'eau, et celui qui descendait le premier expérimentait la guérison. Mais lorsque nous observons tout cela, eh bien, nous voyons que parmi ces malades, il y en a qui étaient vraiment défavorisés. Donc, certains étaient plus favorisés que les autres. Prenons le cas des aveugles qui étaient au bord de cette piscine. Ils ne pouvaient pas voir le mouvement de l'eau, oui ou non? Ils ne pouvaient pas voir. Et par conséquent, ils dépendaient totalement de l'attention des gens qui les avaient amenés là. Donc il fallait que ces gens-là restent éveillés, qu'ils restent là à observer le moindre mouvement de l'eau, pour enfin prendre vite l'aveugle par la main et le aller vers la piscine et le jeter dans la piscine. Donc, pour les aveugles, ça ne pouvait pas être facile. Imaginez-vous un peu le cas d'un aveugle qui aurait été amené là par une personne âgée, qui elle-même aurait eu de problèmes à se déplacer, et qui tout d'un coup, tout le monde crie, « Oh, l'eau est agitée !» Le temps que cette vieille personne, cette personne âgée se lève, eh ben, les autres sont déjà dans la piscine. Donc, il y en a qui étaient plus favorisés que d'autres. Prenons le cas des paralytiques et des estropiés, c'est-à-dire des perclus. Vous savez, un estropié, c'est quelqu'un qui est privé de l'usage d'un ou de plusieurs membres. Eh bien, pour les paralytiques et les estropiés, tout dépendait du degré de paralysie et de quels membres dont ils étaient privés. Mettez-vous à la place d'un unijambiste, quelqu'un qui n'avait qu'une seule jambe, un seul pied. Alors vous vous rendez compte, une personne pareille, faire un sprint pour se jeter dans la piscine, vous imaginez cette scène? Donc ça n'a pas dû être facile pour ces gens-là. En tous les cas, beaucoup d'entre eux, mes amis, tous ces malades, tous ces paralytiques, beaucoup d'entre eux avaient trop peu de chances de se retrouver dans la piscine de la guérison, dans la piscine du miracle. Et puis, ça c'est du point de vue des malades. Il y en a qui étaient plus favorisés que d'autres, etc. Mais du point de vue de l'ange lui-même, eh bien, la descente de l'ange se faisait de manière périodique, de manière occasionnelle. Donc, ces gens n'avaient aucune certitude quant au jour, quant à l'heure, quant au moment où l'ange allait descendre. Vous voyez que c'était une équation très très difficile. Voyez-vous. Donc, il fallait beaucoup beaucoup de chance pour finalement arriver à tomber le premier dans cette piscine et expérimenter la guérison. Et ensuite, quand l'ange agitait l'eau, il fallait encore courir plus vite que tout le monde, vous voyez, et descendre en premier dans la piscine afin d'expérimenter la guérison. En d'autres mots, il fallait avoir les jambes d'Usain Bolt, hein? Oui ou non? Ah ben oui. Dès que ça bougeait, hop, on sprintait, hop, on tombait en premier, le premier. Et puis on expérimentait la guérison. En d'autres mots, mes amis, il y avait beaucoup d'appelés au bord de la piscine de Bethesda, mais trop peu d'élus pour expérimenter le miracle. Alléluia. Quel spectacle injuste, humainement parlant. Les uns sont favorisés, les autres ne le sont pas. Tel donc fut le cas de cet homme malade depuis 38 ans. Il était couché sur son lit, sur son grabat, sous ses portiques, et ce, depuis longtemps. Cet infirme n'avait personne. Personne pour le jeter dans la piscine quand l'eau était agitée. Lorsque le Seigneur s'approche de lui et lui dit, « Veux-tu retrouver la santé ?» Comment répond-il? Écoutez comment il répond. « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. » Cet homme était seul. Peut-être qu'il n'avait pas de famille. Il n'avait personne, en tout cas, pour l'aider à trouver ce qu'il était venu chercher là à la piscine de Bethesda. Il était seul. La solitude. Seul. Socialement défavorisé. D'autres avaient de la famille. D'autres avaient des gens qui pouvaient les aider, qui pouvaient même les porter, tomber tous les deux dans la piscine. Mais quant à cet homme, lui-même avoue, je suis seul, je n'ai personne pour m'aider. Et il ajoute que quand il lui arrivait quand même d'y aller, eh bien, c'est quelqu'un d'autre qui descendait avant lui. Évidemment, il était infirme. Ce n'était pas facile. Quand je vais vers la piscine au verset 7, un autre descend avant moi. J'arrive toujours en dernier. Quand j'arrive, eh bien, toutes les bénédictions sont déjà distribuées. Quand j'arrive, c'est trop tard. Juste au moment où j'arrive, eh bien, c'est là que la porte se ferme. Personne pour l'aider à plonger dans la piscine de la bénédiction. Non seulement il n'a personne, mais il est aussi incapable, par lui-même, de remporter cette course après la guérison dans la piscine. Mes amis, c'est là que nous voyons la grâce de Dieu. C'est là, mes amis, que quelque chose va se passer pour cet homme seul, pour cet homme qui n'a personne. Il ne sait compter sur personne. Oui, s'il y a personne qui puisse l'aider, il y en a au moins un qui lui est disponible pour tous. Jésus de Nazareth. Alléluia. Le Seigneur s'est dirigé vers lui. Oui. Mes amis, Jésus est venu pour des gens comme cet homme malade. Malade depuis de nombreuses années. Il est venu pour des gens seuls. Pour des gens qui sont rejetés. Des gens qui sont méprisés. Des laissés pour compte. Des gens qui sont défavorisés dans la vie. Oui, il y a des gens qui sont nés dans de bonnes familles. Et par conséquent, ces gens ont eu toutes les occasions de faire des études. Mais il y en a d'autres qui sont nés dans des familles modestes, dans des familles pauvres, mes amis. Et à cause de cette pauvreté, de par leur origine, ces gens n'ont pas pu aller plus loin. Oui, combien d'hommes et de femmes peuvent se retrouver, mes amis, dans la peau, dans la situation de cet homme, de gens qui sont seuls, rejetés par la famille, de gens qui sont seuls et qui n'ont personne pour les secourir d'une manière ou d'une autre, de gens qui sont rejetés, incapables par eux-mêmes de trouver des solutions à leurs préoccupations parce qu'ils n'en ont pas le moyen, parce qu'ils n'ont pas le papier, parce qu'ils n'ont aucune ressource. Mes amis, quelle qu'elle soit, pour faire face aux différents défis qui se présentent à eux. Mon frère, ma sœur, j'ai une très bonne nouvelle. Si tu te reconnais dans la situation de cet homme, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. C'est que Jésus est venu pour des gens comme toi. Tu es là avec ces sentiments de solitude, des sentiments de rejet. Tu te poses des questions par rapport à ton origine. Il t'est même arrivé de maudire ta propre famille en disant, mais pourquoi je suis né dans cette famille? J'aurais aimé naître dans telle ou telle autre famille. Eh bien, repends-toi aujourd'hui. C'est pour des gens comme toi que Jésus est venu sur cette terre. Je n'ai personne pour m'aider. C'est peut-être ton cri, tous les jours, quand tu te lèves. Je n'ai personne pour me secourir. Je n'ai personne, je n'ai pas d'oncle, je n'ai pas de tante qui ait des moyens pour m'aider à payer le Minerval des enfants. Je n'ai personne pour me pistonner. On va bientôt engager dans telle entreprise. On va bientôt engager des fonctionnaires. Je connais telle personne qui a un oncle qui est bien placé. Telle autre qui a une tante qui a de l'influence. Quant à moi, je n'ai personne. Personne pour me jeter dans la piscine du succès. Personne pour me jeter dans la piscine de la réussite. Réussite professionnelle. Dans la piscine de la promotion sociale. Je n'ai personne. Personne alors pour me faire descendre dans la piscine de la bénédiction lorsque l'eau est agitée. Personne. Personne pour me faire descendre dans la piscine du mariage. Autour de moi, les gens se marient. Même des filles qui ne craignent pas Dieu finissent par se marier. Mais moi, je crains Dieu. J'ai l'impression que les choses durent, perdurent. Qui va me jeter dans cette piscine du mariage? Je suis à la recherche d'un emploi. À côté de moi, il y en a qui tombent dans telle piscine, et ils en ressortent avec un emploi. D'autres tombent dans de l'autre piscine, ils en ressortent avec un contrat bien ficelé. Quant à moi, je n'ai personne. Oui, je suis limité. Je n'ai pas de diplôme d'une université européenne ou américaine. J'ai fait mes études à l'INILU, à l'UPC, à l'université de Bandundu. Et ici au Congo, les ONG internationales n'engagent que ceux qui ont des diplômes outre-Atlantique. Que faire? Qui va me recommander? Comment faire? C'est là que Jésus devient plus qu'indispensable. Alléluia. Si tu n'as personne sur cette terre, apprends à lever les yeux vers le ciel. Car celui qui est là est disponible pour chacun de nous. Lui ne regarde pas nos origines. Lui ne regarde pas nos limites. Avec lui, tout est possible. Là où les gens doivent passer par la piscine de la réussite, lui peut nous l'accorder directement. Gloire à Dieu. Oui, avec le Seigneur, on n'a pas besoin de passer forcément par cette piscine où tout le monde est passé, où tout le monde passe. Car avec lui, il y a plus qu'un ange. Il y a plus que l'ange de Bethesda. Avec lui, tout est possible. Alléluia. Avec lui, tout devient possible. Oh, gloire à Dieu. On n'a pas besoin qu'il nous jette dans telle piscine où tout le monde est passé. Lui, quand il veut nous bénir, il n'a pas besoin de tout ça. Voyez, il se tient devant cet homme. Il lui dit, veux-tu retrouver ta santé? Quelle est la réponse de ce malade? Eh bien, l'attente de cet homme est tournée vers l'ange. Cet ange susceptible de descendre dans la piscine et d'ajouter l'eau au point où il ne discerne même pas qui est celui qui lui parle, qui lui pose la question, et encore quelle question. Lui, c'est l'ange. Il est tourné vers l'ange. Je n'ai personne. En disant je n'ai personne, en donnant cette réponse au Seigneur, eh bien l'homme s'attend à ce que le Seigneur lui dise, d'accord, tu n'as personne, eh bien moi maintenant je suis là. Je vais veiller avec toi. Je vais me tenir à tes côtés. Et aussitôt que l'eau sera agitée, eh bien je t'aiderai à te jeter dans l'eau. En d'autres mots, il s'attend à ce que le Seigneur s'arrête, comme tant d'autres personnes qui avaient accompagné leurs amis ou leurs frères ou sœurs malades. C'est pourquoi il dit, mais je n'ai personne. Tu es peut-être le seul qui me pose cette question. Eh bien, ton aide serait la bienvenue. Mais le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Encore une fois, il n'a pas besoin que toutes les conditions soient remplies pour te bénir, pour t'accorder la grâce. Tiens-toi devant lui. Attends-toi à ce qu'il te donne une parole. Avec cette parole, ton problème sera résolu. Que l'eau soit agitée ou pas, que tu tombes dans l'eau, dans la piscine de la bénédiction ou pas, lorsque lui ordonne, eh bien la bénédiction arrive. Il lui donne sa parole, alors que l'homme ne sait pas qui est celui qui lui donne cette parole. Et sur le champ, la parole du Christ envahit ce corps infirme, ce corps cloué sur ce lit de souffrance, ce lit de malédiction, ce lit d'humiliation. La parole entre dans ce corps et débarrasse ce corps de l'infirmité et de la paralysie. Et la Bible nous dit, aussitôt, oh alléluia, aussitôt, cet homme retrouva la santé. Il expérimente une guérison soudaine. Aussitôt. Mes amis, quand cet homme marche, alors que tout le monde était tourné vers la piscine, attendait que l'eau soit agitée, soit en mouvement, pour courir et se jeter le premier et expérimenter la guérison, quelque chose se passe. Ce malade, tout d'un coup, se met debout. Oh, alléluia. Le Seigneur ne lui a pas seulement dit, lève-toi, c'est-à-dire sois guéri. Il va plus loin. Lève-toi et marche. Cet homme marche pour la toute première fois. 38 ans. 38 ans d'infirmité. 38 ans de paralysie. 38 ans de moquerie. 38 ans d'humilité, d'humiliation. 38 ans d'épreuve. 38 ans plus tard, quelque chose se passe. Retournement de situation. Inversion de situation. Cet homme se lève. Oh, alléluia. Il se lève. Non pas parce que l'ange est passé par là. Il se lève parce que le Seigneur de gloire lui a donné sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Cet homme se met debout. Il regarde son lit. Que fait-il? J'aime beaucoup ça. Il prend le lit. Ce lit qui le portait. Ce lit de la souffrance. Ce lit qui était devenu quelque part son identité. Où est-elle? Ah, l'homme sur son lit, il est là-bas. Il était connu parce que il était constamment couché sur son lit. Mais cette fois-ci, parce que la parole du Christ est passée par là, parce que Jésus est passé par là, il se met debout, c'est maintenant lui qui prend le lit et qui le porte. Oh, alléluia. Et vous le savez tous, c'est le plus fort qui porte toujours le plus faible. Le lit a été plus fort à cause de l'infirmité. Mais cette fois-ci, le Seigneur est passé par là. Mes amis, pour terminer, la vie est comme cette piscine de Bethesda. Il arrive des fois que Dieu envoie un ange agiter l'eau ici pour accorder la bénédiction, agiter l'eau là-bas pour telle autre bénédiction, et celui qui descend en premier trouve sa bénédiction. D'où la nécessité d'être là où il faut quand ce qui n'est pas facile. D'où la nécessité de marcher avec Dieu. Oui. Ce qu'on appelle chance, ou même concours de circonstances, n'est en réalité que la manifestation de la providence divine. Et cette providence se manifeste même envers ceux qui ne connaissent pas Dieu, puisque Dieu aime tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde. Donc quand vous voyez les gens, même les païens, prospérer, c'est que la providence de Dieu est à l'œuvre. Oh, alléluia. La providence. Je me souviens de l'histoire de cet étudiant. Je parlais de l'université de Lubumbashi. C'était un étudiant qui faisait ses études dans les années 70. Et puis un jour, je crois que ses parents étaient par ici à Kinshasa, il prend un régulier d'Air Zaïre. Je ne sais pas s'il revenait de Kinshasa ou il venait de Lubumbashi. Toujours est-il que, à bord de ces réguliers, il rencontre un homme. C'était un soviétique, un russe. Ils échangent. Et puis cet homme semble intéressé par cet étudiant. Et il lui pose la question, si ça l'intéresserait de bénéficier d'une bourse pour aller étudier à Moscou. Mais l'étudiant dit, mais évidemment. Et puis plus tard, cet étudiant obtiendra sa bourse et partira en Union soviétique à Moscou. Voyez-vous? Oui, on peut dire, il a eu la chance. C'était un concours de circonstances, oui, du point de vue humain. Mais du point de vue de Dieu, c'est la providence. Alléluia! Il s'est trouvé à un moment où Dieu a secoué l'eau à bord de cet avion. Et lui est tombé dedans le premier. Quand il ressort, une bourse, il est parti. Gloire à Dieu. Ou alors, juste au moment où tu termines tes études, universitaires ou autres, eh bien, un de tes oncles est nommé ministre. Ministre provincial ou ministre au gouvernement central. Et comme l'oncle est devenu ministre, il te trouve une place dans un cabinet. Et tu atterris dans ce cabinet comme conseiller. Et puis plus tard, tu deviens DIRCAB adjoint. Et puis DIRCAB full. Et puis au prochain remaniement, tu passes ministre. Eh bien, tu étais là. Dieu a secoué la piscine. L'oncle a été simplement un ange que Dieu a utilisé pour t'amener là où tu es aujourd'hui. Donc, ce n'est pas le hasard. Gloire à Dieu. Mes amis, vous êtes peut-être seuls. Vous dites, oui, je n'ai personne. Eh bien, aujourd'hui, autour de vous, au-dessus de vous, derrière vous, devant vous, à vos côtés, il y a Jésus-Christ. Et puisqu'il est là, je voudrais que tu lui parles, que tu lui dis, Seigneur, je suis à la recherche d'un emploi. Je suis parti déposer mon dossier, mais je n'ai personne pour me recommander. Mais ce matin, si tout le monde doit passer par la piscine afin de décrocher cet emploi-là, ce matin, eh bien, moi, je me tourne vers toi. Seigneur, me voici. Pose ta main et ouvre la porte. Donne-moi une parole d'assurance. Donne-moi une parole qui va me conduire par rapport à ce besoin. Et mon frère, Dieu est capable de t'ouvrir la porte alors que tout le monde va passer par la piscine. Mais cette piscine-là, il faut un concours, n'est-ce pas? Il y a des milliers de dossiers. Mais toi, le Seigneur va prendre ton dossier. Il va aller le déposer juste devant celui qui a le pouvoir des signatures. J'ai connu des gens comme ça qui se sont retrouvés dans des grandes entreprises à l'époque. Après de longues années d'errance, de longues années de chômage, et puis un jour, par un miracle, comme ça, on les a pris, on les a engagés, et tout de suite on les a envoyés dans un poste à l'étranger. Vous voyez mes amis, avec Dieu tout est possible. Croyons dans la puissance des paroles du Christ. Il a dit à ce paralytique, à cet infirme, prends ton lit et marche. Et le paralytique s'est mis debout et il a marché. Seigneur, donne-moi une parole. Et j'expérimenterai la puissance de ta parole. Inclinons nos têtes dans la prière. Que chacun se tienne devant Dieu. Toi qui penses être seul, tu te lamentes parce que tu n'as personne pour te venir en aide, c'est vrai. Tu souffres de solitude. Tu essayes de tomber sur quelqu'un qui puisse te jeter la bouée de sauvetage. Tu te dis, mais qui va me jeter dans cette piscine de la réussite, de la guérison? Eh bien, ce matin, il y a plus qu'un ange, il y a plus que la piscine. Il y a le Seigneur de gloire. Laisse-toi porter par lui, alors le succès deviendra une réalité pour toi. Laisse-toi porter par sa parole, alors le succès deviendra, mes amis, une réalité pour toi. Prions. Oh, alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci de nous montrer une fois de plus combien tu es puissant. Combien ta parole est puissante, capable d'apporter la guérison, l'espoir, là où il n'y en a pas. Il a suffi un seul mot de ta part pour que, Seigneur, cet infirme, pour que ce malade puisse expérimenter la guérison, la délivrance, se mettre debout, oh Dieu, et porter le lit qui jusque-là le portait. Il n'y a que toi qui es capable d'inverser merveilleusement bien des situations. Alors aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi, à te suivre, à marcher par ta parole, à marcher par la foi et non pas par la vue, et non pas selon telle ou telle autre circonstance. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci de bénir également ce moment que nous voulons consacrer, Seigneur, aux offrandes et aux dîmes. Merci pour tout. Amen. Merci. Que Dieu soit béni. Pendant que les paniers circulent, quelques communiqués. D'abord, j'aimerais savoir s'il y a des gens qui sont là pour la toute première fois. Si tel est votre cas, levez simplement votre main. Nous aimerions vous accueillir de manière particulière. Ah, levez bien votre main. Le service d'accueil va vous remettre un dépliant dans lequel il y a toutes nos activités, le jour de nos activités, les heures de nos activités. Et puis, il y a un talon à ces dépliants que vous pourriez détacher, le remplir, le détacher, et ensuite le mettre dans le panier. C'est simplement pour avoir vos coordonnées et voir dans quelle mesure nous pourrions vous aider à mieux connaître celui qui avait changé la vie de cet infirme là à la piscine de Bethesda. Voilà. Alors, les femmes, n'oubliez pas que vous avez réunion ce mardi. Ça sera une réunion de sensibilisation par rapport au cancer du col de l'utérus. Voilà, donc on voudrait vous sensibiliser. Vous savez, ce cancer peut être évité. Et beaucoup, hélas, sont emportés par manque soit d'information ou de négligence. Et donc, voilà. Cancer du col de l'utérus. L'oratrice, ça sera donc maman Magindaya, donc qui a évolué avec nous comme infirmière et puis qui ensuite est allée travailler pendant de nombreuses années là en Afrique du Sud. Et puis spécial femme, samedi spécial femme, ça sera le 13, de 9h30 à 13h, donc ça sera ici. Le thème sera « Va et sois guéri de ton mal ». Et puis la remise des diplômes, donc pour ceux qui ont accompli un certain nombre d'années de mariage, 10 ans, donc si vous n'avez pas encore rempli votre dossier, faites vite parce que nous allons bientôt clôturer tout ça, le temps d'examiner les différents dossiers et puis de voir qui sera éligible ou pas. Donc déposez-les au secrétariat ou alors remettez-les au responsable du département de couple et famille le dimanche. Pour les baptêmes, vous savez que nous aurons des baptêmes très prochainement, donc les enseignements se poursuivent encore aujourd'hui à 15h30, et je crois que la dernière séance aura lieu le 24. Le samedi prochain, le 16, il y aura une bénédiction.